Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 15 décembre 2020. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien, a humilié Trump et les États-Unis devant la communauté internationale, a souligné le président Rouhani. L'initiative de l'Iran pour résoudre la crise au Yémen est toujours sur la table. Le président français Emmanuel Macron a annoncé un référendum pour inscrire la défense du climat dans la Constitution. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien, a humilié Donald Trump au Conseil de sécurité devant la communauté internationale, a souligné le président iranien Hassan Rouhani lors d'une conférence de presse avec des journalistes iraniens et étrangers. Lors d'une conférence de presse en présence des journalistes iraniens et étrangers, le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, s'est exprimé sur les questions régionales et internationales, en particulier sur le plan global d'action conjoint. Il a souligné « Le gouvernement ne permettra à personne de retarder la levée des sanctions, même d'une heure ni d'une minute. Les sanctions doivent être levées, c'est le droit légitime du peuple iranien. Les États-Unis doivent revenir à leurs engagements antérieurs et nous avons dit à maintes reprises que si tout le monde revient à ses engagements, nous respecterons pleinement nos engagements », a-t-il souligné. La guerre économique de Trump a échoué. Le monde entier reconnaît que les États-Unis ont perdu cette guerre. Le monde entier fait pression sur les États-Unis pour qu'ils reviennent à l'accord nucléaire et pour que cet accord redeviennent actifs. L'un des grands succès du gouvernement actuel est d'avoir empêché de toutes ses forces la destruction du plan global d'action conjoint. L'accord sur le nucléaire iranien a-t-il souligné encore. L'initiative de l'Iran pour résoudre la crise yéménite est sur la table, a déclaré Asrar Hajji, un assistant principal du ministre iranien des Affaires étrangères. Dans un entretien avec Al-Masira, Ali Asrar Hajji a déclaré que Téhéran espère que les pays de la région, les États-Unis, les ennemis du Yémen, comprendront que la guerre ne peut pas être la solution pour le Yémen et que l'initiative de l'Iran content que solution fondamentale est toujours sur la table. Il a noté que dès le début de la guerre d'agression contre le Yémen, l'Iran a déclaré que la solution pour ce pays devait être politique. Et pour cette raison, la République islamique a proposé un plan équilibré composé de 4 clauses pour résoudre le problème. Certains pays de la région pensaient pouvoir résoudre militairement la question yéménite en 3 ou 4 mois sans accorder de concessions politiques au parti yéménite, a-t-il souligné encore. La guerre militaire au Yémen a conduit à la plus grande crise humanitaire du siècle, a-t-il souligné. Des milliers de femmes et d'enfants ont perdu la vie et la faim, s'est répandu, a-t-il précisé encore. Les agresseurs au Yémen n'ont pas atteint leurs objectifs malgré des 6 ans d'attaque, mais le peuple yéménite a pu créer une équation d'équilibre, de dissuasion et de pouvoir en leur faveur, a-t-il conclu. Le président français Emmanuel Macron a annoncé un référendum pour inscrire la défense du climat dans la Constitution. Le président français a annoncé l'organisation d'un référendum pour inscrire la défense du climat dans la Constitution après avoir rencontré les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Ce sera une réforme constitutionnelle en un article qui doit d'abord passer par l'Assemblée nationale, puis le Sénat et être votée en termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise à un référendum, a indiqué le président français Emmanuel Macron. Le collège électoral a confirmé la victoire de Joe Biden. Le collège électoral américain a entériné sans surprise la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine face à Donald Trump. Le vote des grands électeurs de Californie est remporté très largement par Joe Biden avec plus de 63% des voix, a permis aux démocrates de franchir la barre des 270 suffrages synonymes de victoire. Le président russe Vladimir Poutine a félicité Joe Biden pour sa victoire à la présidentielle dans un télégramme, rapporte le service de presse du Kremlin. Le président russe a également exprimé sa certitude que les deux pays aient la possibilité de coopérer afin de favoriser la résolution de nombreux problèmes auxquels le monde fait face. En fait, le président russe a également souligné qu'une coopération basée sur le respect mutuel servirait les intérêts des populations des deux pays et du monde entier, indique le service de presse du Kremlin. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara officiellement a investi pour un 3e mandat. Le président ivoirien Alassane Ouattara a été investi officiellement pour un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire lors d'une audience de prestation de serment au palais présidentiel d'Abidjan. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois de si je trahis mon serment, a-t-il déclaré. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève et merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Usage de bombes US à uranium appauvrit l'Irak, porte plainte contre les États-Unis, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Atef al-Rekabi, conseiller de la Commission des relations étrangères du Parlement irakien, a annoncé son intention de porter plainte contre les États-Unis pour violation de la souveraineté irakienne et utilisation d'armes contenant de l'uranium appauvri. Dans une interview accordée au site d'information Al-Maluma, il a déclaré qu'il intenterait une action en justice contre les États-Unis devant les tribunaux suédois et allemands pour porter plainte contre leurs crimes majeurs en Irak, entre autres l'utilisation d'uranium appauvri contre les Irakiens. Al-Rekabi a ajouté que le dépôt de plainte contre les tribunaux suédois allemands garantirait l'ouverture d'une enquête contre les États-Unis. Le responsable irakien a expliqué que le bilan de centaines d'Irakiens infectés en un mois de seulement est une preuve claire des dommages causés à l'Irak par les forces d'occupation américaines. Il a en outre appelé le ministère irakien de la Santé à clarifier les détails des pertes causées par le bombardement américain dans diverses régions d'Irak. De nombreux rapports ont été publiés jusqu'à présent montrant l'utilisation par des occupants américains des centaines de tonnes de munitions à l'uranium appauvri durant les guerres de 1991 et 2003 en Irak. Des sources médicales bien averties considèrent cet incident comme la cause principale de la propagation du cancer et la naissance de bébés mal formés en Irak. Les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003 avec leurs alliés sous prétexte de détruire les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Ces armes n'ont jamais été retrouvées en Irak, mais selon les recherches menées par divers centres en Irak et à l'étranger, les États-Unis ont utilisé des armes contenant de l'uranium appauvri dans leurs attaques contre diverses régions de l'Irak. La société néerlandaise Base Group a rapporté il y a quelques années que le rayonnement des armements non conventionnels américains utilisés en Irak était plusieurs fois élevé que lors de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Russie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va revenir sur cette normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien annoncé par le président américain Donald Trump. Côté palestinien, la réaction à cette normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien a été immédiate. Les groupes palestiniens ont condamné cette décision du Maroc de normaliser avec le régime israélien. Il y a eu surtout en fait cette réaction du côté du Hamas, mouvement de la résistance islamique de Palestine, qui a en fait considéré comme un péché politique cette décision, un péché politique qui ne sert pas la cause palestinienne. Le djihad islamique de la Palestine aussi a dénoncé cette normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien. Il y a eu également d'autres réactions négatives de la part d'autres groupes palestiniens à cette décision. Côté Front Polisario, la réaction était aussi immédiate. Le Front Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui, a dénoncé avec force la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, tout en disant que voilà, cette décision n'enlève rien à cette détermination du Front Polisario de vouloir en fait faire valoir ses droits. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, Monsieur Luc Michel. Monsieur Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir. Bonjour à vos téléspectateurs et surtout bonjour à mon collègue, le professeur d'Ortiguier.
Vous l'avez dit, Luc Michel, notre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est Pierre d'Ortiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Monsieur d'Ortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Norostine, salutations à vos auditeurs et bien sûr à Monsieur, notre cher ami Luc Michel.
Monsieur d'Ortiguier, on va commencer avec vous l'émission d'aujourd'hui. Oui. Première question, quelle évaluation portez-vous sur cette normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien, s'il vous plaît?
Eh bien, il ne s'agit pas en réalité de quelque chose de surprenant. Peut-on dire de nouveau au sens précis du terme, car c'est mettre simplement en droit, poser en droit ce qui existait en fait. Je m'explique là-dessus, vous savez que la plus grande personnalité, peut-on dire, de la politique marocaine, qui est un homme de mon âge du reste, M. André Azoulay, qui a été, je crois, directeur ou vice-président de la Banque de Paris-Basse, à Paris, etc., qui a beaucoup fait pour les relations entre, qui est marocain, qui a beaucoup fait pour les relations entre la France, le Maroc, et lui-même, je crois, docteur honoris causa de l'université Ben Gurion, près de Bar Sheva, et a toujours œuvré, pour des relations très, très solides entre l'entité sioniste et le Maroc. Je dois dire que je cite cette personnalité car elle est essentielle. Elle a même, comme vous dites, comme j'ai dit, une part importante dans la politique française. C'est le cas de sa fille qui est parisienne, qui est maintenant la directrice, je crois, de générale de l'UNESCO après avoir été notre ministre de la culture, vous savez, pendant 2 ans, en 2016-2017. C'est donc une grande famille qui a, si je puis dire, des racines internationales. Et c'est elle qui a, à mon avis, bâti, ou contribué à bâtir, ces relations de fait entre le Maroc et l'entité sioniste. Et bien sûr, M. Azoulay, dont je parle, a souvent insisté sur le fait qu'il fallait qu'il y ait deux États côte à côte. Mais si vous reconnaissez deux États, ça veut dire qu'un État reconnaît l'autre, voyez-vous. Donc, je parle d'État palestinien à côté de l'État israélien. Et donc, cette politique ne nous surprend pas. Et ce qu'a fait le président Trump aujourd'hui, c'est finalement de reconnaître aussi un état de fait, c'est-à-dire l'existence de ces liens, pas privilégiés, de ces liens fondamentaux, Je ne crois pas que M. Luc Michel me contredise là-dessus, qui connaît très bien l'Afrique, ces liens fondamentaux entre le Maroc et l'entité sioniste. Et bien sûr, cela peut... se revêtir des formes différentes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des protestations d'un côté ou de l'autre. Je veux dire, au Maroc, en disant qu'il y a un lâchage des Palestiniens, etc. Mais chacun sait que ces relations sont profondément enracinées. Et même, je sais que si M. Rami était avec moi, avec nous, par exemple, il nous dirait même les liens très intimes qu'il y a entre la famille royale et l'entité sioniste.
Merci beaucoup, Monsieur d'Ortiguier. Parmi en fait les premières réactions à cette normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien, il y a eu également celle du secrétaire général de l'ONU, Antonino Guterres, a une position inchangée sur le Sahara occidental, a déclaré son porte-parole lors d'un point de presse. Monsieur Guterres pense que la solution à cette question peut toujours être trouvée sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, toujours selon son porte-parole, Monsieur Staffan Dujarric. Luc Michel, venez d'entendre les explications de Monsieur d'Ortiguier. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Mais ma lecture, il faut constater une chose tout d'abord, c'est que le passage de Trump à Biden, ça va conduire à un certain nombre de réalignements de la politique américaine et des alliés des États-Unis notamment avec la Turquie. Mais en ce qui concerne le Maroc, il n'y a rien qui va changer. Les liens avec le Maroc étroits ont été tendus sous Obama et Clinton avec l'administration américaine. Pompeo, lorsqu'il a trahi les réseaux Clinton pour devenir les réseaux d'Obama, pour devenir lui qui était le chef de la CIA d'Obama, pour devenir le state secretary de Trump, il a apporté ses réseaux et donc la politique est la même. Trump simplement, vis-à-vis d'Israël, je l'ai dit pour d'autres États, c'est le cas des Saoudiens, des Émiratis, il a rendu officiel ce qui était jusque-là une alliance honteuse. Maintenant, il faut comprendre ce qu'est le Maroc. Le Maroc, c'est la porte d'entrée des Occidentaux en Afrique. Tout d'abord, il y a l'alliance économique avec Paris, il y a l'alliance diplomatique avec l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que depuis le début des années 80, le Maroc est candidat à l'adhésion à l'Union européenne, mais en même temps, il joue à l'Africain, à l'Union africaine. Troisièmement, c'est surtout la porte d'entrée de l'OTAN et des États-Unis. Le Maroc a été proclamé, je dis bien de l'OTAN et pas de l'Africom, le Maroc a été proclamé allié privilégié, c'est un statut de préférence de l'OTAN, et il s'apprête à abriter la super base de l'US Navy en Méditerranée qui va quitter l'Espagne pour partir au Maroc. À partir de ce moment-là, il ne faut pas s'étonner de voir les Marocains. Les Marocains, depuis 60 ans, ont une position pro-occidentale, anti-africaine et anti-tchermondiste. En 2011, lorsque l'agression contre la Jamaïque de Kadhafi s'est faite, l'aviation marocaine a participé avec les Français, les Américains, les Britanniques au bombardement de Tripoli et de Sirte. Et dès le début des années 60, le Maroc, qui sert de joker occidental pour bloquer, à partir de 1960, l'Algérie. L'Algérie qui est au cœur du tiers-mondisme, où est la tricontinentale, c'est-à-dire l'interface entre les non-alignés de Tito et les soviétiques. Et à partir du moment où Kadhafi arrive au pouvoir en 1969, le Maroc mène une politique anti-Kadhafi, sabotant notamment les efforts de Kadhafi pour unifier le Maghreb. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce qui se passe actuellement. Il faut savoir encore une chose, c'est que le Maroc a été pris en otage dans la querelle entre Londres et Washington et Paris pour le contrôle de la CEDEAO. Macron avait un plan avec le président ivoirien Ouattara, c'était de s'emparer de toute la CEDEAO. Il faut comprendre que dans la CEDEAO, il y a 7 pays qui font partie du Commonwealth, en plus des pays de la France-Afrique. Et donc Macron a essayé de s'emparer du tout et de faire du projet de monnaie de la CEDEAO, l'ECO, le nouveau franc CFA. Dans la foulée du Brexit, Londres et Washington s'y sont opposés. Et le Maroc, qui était le complice de Paris dans cette affaire géoéconomique, il s'est retiré prudemment sur la pointe des pieds. On ne l'a pas entendu. Et donc, les Marocains aujourd'hui, indépendamment de leurs liens privilégiés qui ont toujours existé avec Israël, ils n'ont rien à refuser aux États-Unis. Ça ne changera pas avec Joe Biden. Il ne faut pas s'imaginer de grandes choses dans ce domaine-là. Certains analystes, ce sont généralement ce qu'on appelle des théoriciens du complot, nous expliquent que les États-Unis auraient lâché Israël. C'est une galéjade. L'AIPAC, le lobby pro-israélien, il fait la pluie et le beau temps aux États-Unis. Joe Biden va compter avec l'AIPAC pour sa présidence. Et les deux hommes qui vont définir la politique étrangère des États-Unis sous Biden, c'est-à-dire Blinken, State Secretary, Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, ce sont des sionistes et des likoudniks enragés. Donc, ne pas s'entendre à ce que ça change. Et le Maroc, évidemment, il s'est inscrit là-dedans. Je ne suis pas, je vais terminer là-dessus pour ce premier jet, je ne suis pas quelqu'un qui prend cette théorie que Trump serait en train de jeter une série de bombes ou de poser des mines sur la politique étrangère américaine. En Afrique, en tout cas, elle va aller en Israël dans la continuité de ce qui se fait d'ailleurs depuis une décennie.
Monsieur Dortillier, pour reprendre l'expression de Monsieur Luc Michel, en fait, le Maroc, c'est la porte d'entrée des Occidentaux, des Européens, des Américains en Afrique et avec cette, si vous voulez, officialisation, disons-le, des relations entre le Maroc et le régime israélien, ce pays peut devenir la porte d'entrée d'Israël également au Maroc et partant du Maroc en Afrique. Il y a ceux parmi des analystes également, M. Dortiguet, qui avancent de cette hypothèse que la coopération, la normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien peut avoir comme conséquence également la présence militaire israélienne au Maroc et partant du Maroc en Afrique. Mais s'agissant du Maroc, c'est en fait ce qui rend délicate cette présence militaire, c'est que le Maroc, c'est le voisin de l'Algérie, M. Dortiguet. Corroborez-vous cette hypothèse, M. Dortiguet?
Oui, en effet. En tout cas, je retire deux points. Je veux indiquer deux points importants. C'est que la présence israélienne en Afrique est très importante. Monsieur Luc Michel ne me démentira pas. Elle date même de l'époque de Lumumba, etc., du président Nkrumah. C'est-à-dire que les diplomates israéliens ont toujours eu, disons, une grande politique africaine. Elle avait été réclamée par Ben Gurion à l'époque. Ils s'y sont maintenus, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Et donc, cela ne changera pas pour les Israéliens. Qu'il y ait maintenant une présence militaire plus affirmée comme cadre, comme politique d'encadrement militaire d'Israël au Maroc, je le crois volontiers. Et cela aura le visage, bien sûr, d'une lutte contre le terrorisme, mais aussi seront des conseillers militaires dans une lutte permanente ou chronique, si j'ai pu dire, si ce mot est entendu en français, entre le Maroc et l'Algérie. Je me rappelle très bien, et je le déplore, du reste, c'est une formule de De Gaulle ancienne qui a été, reprise par l'ancien ministre Peyrefitte dans ses mémoires, en disant il faut que nous favorisions la lutte entre l'Algérie et le Maroc pour éviter qu'il y ait justement un Maghreb uni. Voyez ? Et ceci, bien sûr, peut paraître mesquin, mais c'est quand même, disons, le sens de la politique coloniale ancienne ou traditionnelle, si vous voulez, dont Israël n'est qu'un des aspects. Et je crois que de ce point de vue, la politique militaire israélienne, en effet, pourrait, non pas d'intervenir massivement, bien sûr, mais de former des cadres pour pouvoir justement présenter au Maroc, par exemple, auprès des Marocains, l'Algérie comme étant un pays qui veut démembrer le Maroc, qui veut apparaître par le Polisario, dont le Polisario étant présenté comme une création des services secrets algériens, etc. Bon, qu'il y ait bien sûr des vérités à droite et à gauche, des vérités démembrées, si j'ai pu dire, qu'on a peine à reproduire comme un corps qu'on voudrait faire devenir un corps mort, qu'on voudrait faire devenir vivant, ça c'est possible. Mais je crois qu'en effet, cette reconnaissance officielle n'est que, une marche supplémentaire de la politique mondiale israélienne.
Monsieur de Luc Michel, c'est une reconnaissance de la politique mondiale israélienne?
Israël a toujours eu, en tout cas, une politique africaine. Par exemple, c'est elle qui a lancé le démembrement du Soudan dans les années 60. Le Soudan, c'est la géopolitique qui explique ça. Lorsque vous venez du Proche-Orient, que ce soit d'Israël ou de Syrie, comme les Russes l'ont fait, la porte d'entrée de l'Afrique géopolitique, c'est le Soudan. Donc les Israéliens sont présents au Soudan. C'est eux qui ont conduit au démembrement entre les deux Soudans en 2010. Ils sont présents également en Éthiopie dans la question du Tigré. Ils sont présents en Somalie. Et ils sont présents en Afrique du Nord, principalement là-bas pour des raisons qui ne sont pas diplomatiques, mais qui sont les ventes. Israël est là un lobby militaro-industriel qui est un mini-lobby militaro-industriel sur le modèle américain. Et les
nous avons perdu, semble-t-il malheureusement, notre liaison avec Bruxelles. Luc Michel, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je suis toujours là. J'avais malheureusement un appel, je viens de l'interrompre. Donc, il faut qu'on...
Je vous en prie. Continuez, monsieur Luc Michel. Luc Michel, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je suis toujours là.
Je vous en prie, la parole est à vous.
Ils n'ont pas suffisamment, donc, un marché intérieur pour justifier le grand lobby militaro-industriel américain, israélien, qui produit des avions, qui produit des chars, qui produit des drones, qui produit du matériel, des petits armements, etc. Et donc, ils ont besoin d'exporter. Où exporter? On n'exporte pas le matériel israélien en Europe. On n'exporte pas en Europe de l'Est, on l'exporte en Afrique. Il y a donc des ventes d'armes israéliennes un peu partout, et le cœur de ces ventes d'armes, c'est le Sud-Soudan. Il y a eu un scandale à la Knesset il y a 3 ans, où le Parti socialiste a révélé que le Likoud avait squatté ou vampirisé ce lobby militaro-industriel et mené de juteuses affaires, notamment en entretenant la guerre civile entre les factions politiques du Sud-Soudan. Voilà donc ce qui se passe. Il est bien certain que la reconnaissance avec le Maroc, elle va favoriser cette pénétration qui est une pénétration militaro-commerciale. Les Israéliens vendent aussi des produits de sécurité et ils vendent aussi ce qu'on ignore le plus souvent, ils vendent au régime africain des images satellitaires qui sont indispensables, vous soulignez, dans la lutte contre le terrorisme. Et les Israéliens fournissent aux Africains, d'ailleurs, ce que les Français ou les Américains ne veulent pas fournir. Voilà les données du problème. Il y a maintenant la dernière question, évidemment, qui est à part, c'est la question du Polisario et des rapports avec l'Algérie. Je dirais que c'est un sous-dossier de ce qui se passe. Et la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara espagnol, c'est un peu un échange de bons procédés de l'administration Trump à partir du moment où les Marocains et de Trump a terminé sur un grand succès de politique internationale qui va lui servir à se profiler, d'ailleurs, pour la prochaine élection présidentielle dans 4 ans. Il faut donc comprendre maintenant l'Algérie, évidemment, il y a quelqu'un qu'on a oublié dans tout cela, et ça c'est la grande erreur de Trump ou des Américains, c'est que le plan, ce qu'on a appelé le Big Deal, ce plan du Likoud et de Trump, il sert de moyen de pénétration aux Russes. Les Russes, notamment, ont renforcé l'axe de la résistance, ils ont rétabli la parité stratégique, ils se sont éloignés d'Israël, malgré la présence en Israël d'une très grande communauté de Juifs venus de Russie, et il est bien certain que les Russes se tiennent ici, aux côtés des Israéliens, face au Maroc, et ils vont bien entendu s'ingérer dans le problème, notamment dans celui du Polisario. D'autant plus que le Maroc a fait une erreur. Il y a actuellement une compétition géopolitique pour le contrôle de la Méditerranée occidentale. Je dis bien occidentale et pas orientale. L'amiral commandant les flottes d'Eurasie et d'Afrique, l'US Navy, s'est plaint de ce que les flottes russes en Méditerranée occidentale bloquaient les marines de l'OTAN. Et le Maroc participe à contrer la Russie, notamment avec cet établissement de la grande base de l'US Navy au Maroc, qui va se déplacer d'Espagne précisément pour le contrôle de la Méditerranée occidentale. Les Russes ne vont pas rester l'arme au pied. Le développement de la Russie comme une puissance maritime, c'est le grand plan du réarmement de la Russie de Poutine. Il y a un plan qui va se terminer en 2050. En 2050, la Russie sera revenue, comme au temps de Brejnev, avec des flottes russes sur les 6 océans du monde, et une politique de puissance mondiale avec des bases, etc. Les bases, évidemment, en Afrique du Nord, c'est l'Algérie.
Merci beaucoup, M. Dortig. Une dernière question. Nous avons 2 minutes presque devant nous. J'ai bien suivi Luc Michel, cette normalisation, plutôt cette officialisation des relations entre le Maroc et le régime israélien, ça s'inscrit, si vous voulez, dans le cadre d'un projet bien calculé.
Oui, en effet. Ce projet très bien calculé vise, bien sûr, une sorte d'organisation africaine. Mais en même temps aussi, dans ces derniers moments, je dirais que cela aura une influence aussi sur la politique européenne, en particulier française. Il est certain que le Maroc pourra jouer plus librement un rôle politique et idéologique, si je puis dire, par exemple dans ce qu'on appelle en France la formation d'un islam, islam républicain, voyez-vous. C'est-à-dire, je pense que le Maroc va jouer un rôle, bien sûr, dans cette transformation des mentalités, en particulier dans une sorte de reprise en main des jeunes générations musulmanes d'Europe, voyez-vous, surtout en France. Et je crois que, disons que si, cette reconnaissance, en réalité, n'est que l'augmentation de degré de la structure assignée au Maroc, disons, de la tâche assignée au Maroc.
Luc Michel, nous avons encore une minute devant nous. Le mot de la fin vous appartient.
Il faut donc constater quelque chose, c'est que le Maroc a une vocation géopolitique pro-occidentale, aligné sur Washington, sur Paris, sur Bruxelles et maintenant sur Tel Aviv, et cela va avoir des conséquences en Afrique. Parallèlement à cela, vous l'avez brièvement souligné, le Maroc se présente, développe depuis les années 60 un espèce de panafricanisme conservateur. Il y avait notamment le groupe de Casablanca qui s'opposait au groupe de Monrovia avec Nkrumah et Lumumba au début des années 60. Et moi, j'ai participé à des colloques, par exemple, en Côte d'Ivoire, où Merci. Il y avait des intellectuels marocains. Ils venaient présenter ce panafricanisme. Ce panafricanisme, évidemment, il n'a plus de crédibilité à partir du moment où une telle politique est développée. Notamment, en particulier, il va avoir des conséquences. Le siège de l'Union africaine, il est à Addis Abeba. Et actuellement, les Israéliens, ils participent directement à la déstabilisation. Merci. Du Premier ministre Abiy Ahmed en Éthiopie.
Merci infiniment, Luc Michel, géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à M. Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous c'est une excellente journée et je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire, et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran, appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
ici le Moyen-Orient.
Ici la région de l'Asie de l'Ouest. Bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de cette région. S'adressant aux ambassadeurs français et allemands, la diplomatie iranienne a souligné que les déclarations qu'il avait tenues étaient un exemple clair de leur attitude ambivalente et hypocrite à l'égard du terrorisme et du manquement à leur responsabilité dans la lutte contre le terrorisme. En réponse à la question d'un journaliste sur ce qui s'est passé lors de la convocation des ambassadeurs allemands et français au ministère iranien des Affaires étrangères, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a déclaré « Comme nous l'avons précédemment indiqué à la suite de la publication des communiqués interventionnistes, les ambassadeurs allemands et français ont été convoqués au ministère des Affaires étrangères par le directeur général pour l'Europe du ministère. » Au cours de ces rencontres, le directeur général pour l'Europe du ministère des Affaires étrangères leur a notifié les vives protestations de la République islamique d'Iran envers les communiqués de l'Union européenne et des deux pays en question en faveur de l'élément terroriste réputé des Rouhollazam et du soutien de financier et moral de certains pays européens aux éléments de groupes terroristes qui ont perpétré des atteintes à la sécurité nationale en coopération avec les services de renseignement occidentaux et israéliens. Ceux-ci l'ont eux-mêmes explicitement avoué. Lors de ces deux rencontres, le directeur général de l'Europe a demandé aux ambassadeurs d'Allemagne et de France dans quelle mesure s'entraîner à fabriquer des bombes incendiaires, planifier des affrontements de rue, coopérer avec les gouvernements et les services de renseignement étrangers dans le but de renverser le système politique de l'Iran, encourager et aider des actes criminels à armer pouvaient être appelés du journalisme. Ou de selon quelle définition un journaliste surveillé, protégé en étroite coopération avec l'Agence française de sécurité intérieure et le Mossad collecte des renseignements sensibles, y compris militaires, et les met à la disposition des services de renseignements étrangers. Malgré le fait que les autorités françaises étaient au courant des activités mouvantes iraniennes de Rouhollazam, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères avait confirmé sa totale liberté de mouvement en France. C'est regrettable que des pays européens soient devenus le refuge de terroristes pendant des années, des monaférines aux criminels d'Al-Ahwazia, a précisé encore Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Plus loin dans ses propos, il a déclaré que c'est une tragédie historique que l'Europe divise le terrorisme en bon et en mal en fonction de ses intérêts et en fasse un instrument utilitaire à ses propres fins. Ce cercle vicieux de haine, de violence et du terrorisme est l'héritage de cette approche et inhumaine, a-t-il précisé encore. L'ironie la plus amère est qu'un pays qui remet secrètement la Légion d'honneur à un dictateur putschiste qui a réprimé des manifestations et emprisonne ou exécute des gens parle sans vergogne de démocratie et des droits de l'homme. Ce sont des pays qui, depuis des années, soutiennent sans équivoque le commerce d'armes. Les agresseurs contre le Yémen font plonger un peuple entier sans défense dans la famine et la catastrophe humanitaire, a-t-il déploré encore. Selon M. Khatibzadeh, l'utilisation par les États-Unis d'une base aérienne dans l'un de ces pays européens pour mener des opérations terroristes dans la région, y compris l'assassinat du général Soleimani, ne laisse aucune place à leurs apparentes revendications humanitaires. La nation iranienne n'oubliera jamais non plus le rôle de ces pays européens dans l'équipement de Saddam en armes chimiques, ce qui a conduit à la mort en martyr des habitants de Sardash et Halabja, ainsi que que celle de nombreux éléments du corps des gardiens de la révolution islamique et de l'armée iranienne. Bon nombre de victimes de la guerre chimique souffrent toujours. Il est regrettable que les valeurs humaines soient devenues un instrument entre les mains des gouvernements qui ont tout transformé et sali. Aussi les droits de l'homme que la liberté d'expression a-t-il souligné encore. L'Iran exhorte la communauté internationale à rester vigilante contre la réémergence de Daesh. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a félicité le gouvernement et la nation irakienne pour le 3e anniversaire de la victoire dans la guerre contre le groupe terroriste Daesh. Dans une déclaration publiée de vendredi, Khatibzadeh a félicité le 3e anniversaire du gouvernement irakien et la victoire de la nation sur le groupe terroriste Daesh, saluant la victoire en raison de la ferme détermination et du courage intégré du gouvernement et de la nation irakien ainsi que de toutes les forces militaires et de sécurité de l'Irak. Khatibzadeh a déclaré que le triomphe sur le terrorisme inclusif a été inspiré par l'autorité religieuse irakienne, le grand ayatollah Ali Sistani, soulignant le soutien de la République islamique d'Iran à l'Irak dans la lutte contre le terrorisme de Daesh. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré « Le gouvernement et la nation iranienne ont toujours soutenu le gouvernement et la nation irakien et n'épargneront aucun effort pour contribuer à la solidarité, à la sécurité, à la stabilité, à l'établissement, au développement et à la prospérité de l'Irak. » Explosion de l'extérieur à bord d'un pétrolier au large de l'Arabie Saoudite. Une explosion provoquée de l'extérieur a affecté un pétrolier au large de la ville portuaire de Jeddah en Arabie Saoudite. Le pétrolier Beverin a été touché de l'extérieur pendant qu'il est déchargé à Jeddah, provoquant une explosion et un incendie à bord, a indiqué l'armateur singapourien dans un communiqué. Le mois dernier, une explosion avait secoué un tanker grec dans le port saoudien d'Al-Shuraïr, au sud de l'Arabie saoudite. Ces derniers mois, les forces de Sanaa, qui comptent dans leur rang des unités de l'armée et les comités populaires d'Ansar Allah, ont intensifié les attaques contre l'Arabie saoudite en représailles à la guerre d'agression que mène de ce pays dans le cadre d'une coalition d'agression en soutien au président fugitif et démissionnaire contesté Abderrabo Mansour Hadi. Plusieurs attaques visant des sites énergétiques saoudiens qui ont récemment été rapportées soulignent la vulnérabilité de l'infrastructure pétrolière de l'Arabie saoudite. Le mois dernier, la force de Sanaa avait affirmé avoir frappé avec un missile une usine exploitée par Aramco à Jeddah. Aramco avait alors indiqué que la frappe avait percé un réservoir de pétrole déclenchant une explosion et un incendie. La Syrie condamne les pratiques turques contre le peuple syrien. La Syrie a condamné les pratiques criminelles répétées commises par les forces d'occupation de Turquie contre le peuple syrien, sa souveraineté et son intégrité territoriale et la répétition de la coupure d'eau à Asaka, réclamant au Conseil de sécurité et au secrétariat général de l'ONU d'intervenir afin d'obliger le régime turc à remettre en fonction la station d'eau d'Alouk et de mettre fin à ses violations, à son agression et à son occupation des parties des territoires syriens. Dans un message qu'il a adressé au secrétaire général de l'ONU, au président du Conseil de sécurité, le ministère syrien des Affaires étrangères a fait savoir que dans le cadre de leurs violations et de leurs agressions graves répétées contre la souveraineté de la République arabe syrienne et son intégrité territoriale, les forces d'occupation turques avaient répété leurs crimes dans la coupure d'eau dans la région d'Alouk, considérée comme la source principale de la fourniture d'eau potable à plus d'un million de citoyens dans la ville de Dasaka et dans ses agglomérations. Le gouvernement turc perpètre ces pratiques non juridiques et inhumaines afin de réaliser des acquis politiques et militaires, dont le déplacement forcé systématique des citoyens syriens des zones qu'il occupe dans le but de faire un changement démographique compatible avec ses objectifs expansionnistes et colonialistes, sans prendre en compte le minimum des besoins humanitaires urgents des habitants de cette région, d'une manière transgressant les chartes internationales et les conventions garantissant le droit de toute personne d'avoir l'eau potable, a-t-il dit. Et le ministère de conclure, le gouvernement de la République arabe syrienne réclame au Conseil de sécurité de mettre fin aux violations menées par le régime turc et de l'obliger à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte antiterroriste, à respecter la souveraineté, la souveraineté et l'unité des territoires et du peuple de la République arabe syrienne et à ne pas s'ingérer dans ses affaires intérieures. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.